La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouche à en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Sylvain.
Tu veux me parler des milliardaires,
oui,
de la techno, comme par exemple Elon Musk.
Oui, qui vient de passer au deuxième rang des milliardaires de Bloomberg. Bon, évidemment, Sylvain, c'est un... Oui, parce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les grands riches de ce monde.
Ouais.
Quotidiennement, ils regardent le nombre d'actions qu'ils ont de leur compagnie, regardent l'évaluation boursière de la compagnie et, dans le fond, calculent leur richesse d'un coup. Donc, c'est une approximation. Mais ce qui est fulgurant, c'est la quantité de milliardaires de la techno. Jeff Bezos.
Qui est encore numéro un. Bezos, c'est encore numéro un.
Numéro un. Avec seulement 182 milliards, malheureusement.
Oui, il l'a perdu dans son divorce. Hein.
D'ailleurs, son ex-femme est au 18e rang avec 60 milliards. Mais c'est pas pire. Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg est là aussi dans le top 20. T'as Larry Page. En fait, tout ce qui est Oracle, tout ce qui est Google, Facebook, tout ce qui est techno est là, dans le fond. Et la question est... Pourquoi les milliardaires des technos sont là si rapidement? C'est pas parce que leurs business sont rentables si vite que ça. C'est que, contrairement à une autre époque, parce que quand j'ai commencé à regarder ça, il y a plusieurs années, les milliardaires étaient les héritiers des empires. Donc là, oui, Warren Buffett avec ses placements de plusieurs décennies, un gars très vieux qui a placé pendant des décennies, était après ça... T'avais des gens comme la famille Walton, qui sont dans le fond l'empire Walmart. Donc, il y avait cette espèce de « on a bâti un empire sur plusieurs décennies » et là, c'est le résultat de l'empire qui est rendu dominant dans sa position de marché.
Mais les grandes familles comme les Rothschild ou les Vanderbilt, etc., là, c'est souvent autrefois, t'as raison.
Autrefois, tu l'as dit, Rothschild, aujourd'hui, on parle plus d'eux autres.
Pas en tout.
Mais quand tu regardes les ratios, tu comprends un peu, les entreprises techno ont la chance que la bourse leur donne une valeur incroyablement basée, non pas seulement sur les ventes anticipées dans le futur, mais la promesse de devenir quelque chose de plus. Et Tesla, Elon Musk, c'est un bon exemple. Bon, fractionnement. Maintenant, avec Joe Biden, on pense qu'il va y avoir des plus grandes orientations vers la voiture électrique. Et tout ça génère, évidemment, une croissance sur un an de 750% du titre. Et la question est, qui est intéressante, c'est comme le ratio cours-bénéfice est à 1114. Ça veut dire que tu payes 1114 fois les profits d'une année quand tu achètes une action. 1114, là. Ouais. Tu sais, une entreprise qui est, disons, à maturité, on voit souvent des ratios de 10, 11, 12. Une entreprise qui est un peu plus techno, mais qui va bien, mais qui a de la croissance, des ratios de 30. Mais là, des ratios comme ça, c'est énorme. Pourquoi? Puis quand tu vas voir les états financiers de Tesla, tu remarques qu'il y a une bonne partie de leurs revenus qui sont en fait des revenus qui sont payants parce qu'ils n'ont aucun coût, ce sont les crédits. Parce que dans le fond, Tesla présentement fait que des voitures électriques au niveau d'automobile et il y a plein de constructeurs qui doivent payer Tesla pour leur droit de polluer. Donc, ils disent par exemple, comme nous ne produisons pas les quotas de certains États, nous allons payer Tesla qui, eux, en produisent plus et donc Tesla va compenser pour nous. Et donc, ils ont ce droit-là de payer. Et donc, Tesla, pour l'instant, au dernier trimestre, a fait des revenus là-dessus. Donc, des revenus, par exemple, 397 millions du fait qu'ils sont en avance technologiquement, excuse-moi, sur les autres. Et donc, qu'ils peuvent se faire payer de l'argent net de même, là, de la marge nette ou de la marge brute, si tu veux, mais pas de coût, lié au fait qu'ils vendent des automobiles. Mais là, plus les autres constructeurs vont embarquer dans le moule, moins ils vont être capables de vendre ça. Et là, présentement, s'ils ne vendaient pas ça, les profits seraient minimes.
Moi, tu nous avais déjà parlé de ça, ces histoires-là, de quand tu achètes, de combien de fois les profits ou tout ça.
Ça existe avec le temps.
Oui, mais Facebook, au départ, n'était pas rentable. Je me
souviens... Mais t'es à 100, là. Mais t'es à 100 quand même, Sylvain. Il n'était pas à 1000.
Il n'était pas à 1000, je sais. Mais Facebook, quand tu nous disais ça, 100, c'est quand même beaucoup. Tu rappelais toujours aussi que Facebook est dans une situation de monopole. Ben, en plus, sur Instagram puis tout. Tesla, c'est pour ça que moi, personnellement, ceci n'est pas un conseil, j'achète pas ça, puis ça m'intéresse pas parce que c'est pas unique, Tesla. Oui, là, ils ont une technologie avancée par rapport aux autres.
Ils ont les batteries, puis ils ont plein d'autres affaires. Ils n'ont pas que ça, des autos, c'est l'énergie.
Mais les autres fabricants, surtout, regarde, Québec a annoncé, on verra, là, je trouve ça ambitieux dans 15 ans, plus de char essence, mais un peu partout dans le monde, on voit qu'il y a un virage vert, je le conteste pas, il est là, on s'en va vers ça. Mais les grands fabricants automobiles, c'est pas comme Facebook, là, ils vont aussi en vendre des chars électriques, puis de la technologie, puis tout ça. Fait que je suis pas sûr que Tesla va se ramasser dans 10-15 ans avec un monopole. Au contraire.
Mais là, autour de Tesla, il y a quand même quelque chose. Puis,
ouais.
Il y a beaucoup de... Écoute, je vais dire ça. Il y a beaucoup de petits gars ou des hommes, disons, qui sont très agressifs sur les réseaux sociaux dans leurs croyants.
Ah ouais?
Ah ouais, ouais. Et ils disent, dans le fond, que Elon Musk est un génie, que Tesla est la prochaine affaire. Ils ont le feeling et c'est l'autoprophétie de leur croyance. Ça devient, à un moment donné, un gourou. Ça devient des apôtres qui répandent la bonne nouvelle. Et là, quand tu leur dis, ouais, mais tu mets certains bémols en disant, oui, ça va être un constructeur important. Oui, tout ça, mais pour l'instant, c'est peut-être beaucoup d'argent en évaluation. Et donc, il y a peut-être de l'argent à faire plus ailleurs. Et là, tu ne crois pas au Nouveau Testament. Ouais. Tu ne crois pas à la parole de Dieu, Tesla. Et donc, toi, tu es un non-croyant. Et donc,
ouais, ben, ça me fait encore, moi, ça m'éloigne encore plus de ça, là, quand il y a ouais, ce genre de monde-là, parce que c'est pas rationnel. Ça, c'est pas rationnel.
Oui, c'est pas fort, mais c'est pas comme ça qu'ils disent ça, là. Ils te sortent des arguments, puis ils ont fait leurs recherches.
Ouais.
Ben, ils sont allés sur YouTube.
Ils ont lu son livre, là.
Ils ont lu. Non, mais tu comprends pas, puis c'est correct. Il est juste à dire que d'une stratégie de placement diversifiée, il y a toujours des gens qui sont des chercheurs d'or. Des gens qui vont dire, j'ai trouvé une pépite, puis là, je veux que tout le monde dise que c'est une bonne pépite, puis je veux y aller, puis je veux mettre tout mon argent là-dedans, puis être un success story en disant, j'ai tout mis mon argent comme Kennedy dans quelque chose.
Moi, non, mais tu comprends-tu? Ce qui m'éloigne encore plus de ça, c'est que ni Mark Zuckerberg, ils ont eu des idées capotées, Facebook, tout ça, ni Jeff Bezos avec Amazon, essayent d'amener du monde dans l'espace. Moi, il m'a perdu un peu là, que ces histoires
évidemment,
de...
Évidemment, si t'es sous-traitant du gouvernement dans l'espace ou des compagnies, ça se peut aussi.
Ah ben oui, il va peut-être réussir, mais je trouve ça capoté un peu. Il est dans Tesla, mais il est aussi dans l'espace.
Mais il est partout. Ça c'est le côté gambling de la patente. Tu sais, puis moi, c'est la notion, les technos, là, Sylvain, il y a une grande affaire dont on parle jamais. C'est la notion de levier sur le travail et la valeur des autres entreprises, des personnes et des utilisateurs. Exemple, Facebook fait du rendement sur les utilisateurs qui partagent le contenu des médias ou des compagnies ou des gens. Et donc, Facebook fait de l'argent sans payer son contenu.
Ouais, t'as raison.
C'est un capteur de valeur.
Oui.
Amazon met en relation des vendeurs et des acheteurs pour se bâtir une liste de clients qui lui serviront à vendre surtout des services qui, eux, seront profitables.
Oui.
Tesla profite des subventions du gouvernement pour établir un modèle d'affaires et pour convaincre des gens que le modèle est spectaculaire. Google fait de l'argent en mettant une relation à un client et un vendeur. Et il dit au vendeur, si tu veux parler au client, tu vas passer par moi. Je suis le courtier immobilier d'information sur le web. Microsoft vend des licences d'utilisation, peu importe l'utilisation des logiciels. Apple, Amazon et Netflix vendent la musique des films financés par d'autres à des prix dérisoires grâce à une clientèle vendue. Et donc, les technos, ce sont des capteurs de valeur. Oui, ils offrent de quoi, c'est-à-dire d'être un portail, d'être une référence. Mais quand tu penses à l'apport qu'ils amènent, ils prennent la valeur d'une industrie, la vendent à rabais et profitent du travail des autres. Et ça, c'est le côté éthique qui fait mal un peu parce que c'est multiplié par beaucoup.
Ouais,
le travail et l'investissement d'autrui.
Mais même donc, avant ça, mais avant ce que tu décris très bien chez les technos, il y avait aussi le fait que certains avaient souligné ça. Quand Walmart est devenue la plus grosse compagnie au monde, certains observateurs ont dit, c'est quand même bizarre, hein? C'est Walmart qui est la plus grosse compagnie au monde, ils fabriquent rien. Ils fabriquent que dalle. Ils font juste être un centre de distribution, OK? Ils ont des marchands, mais comme tel, ce n'est plus... Donc, c'est un changement dans l'histoire, parce qu'autrefois, c'est celui qui fabriquait n'importe quoi, de l'acier, des produits, je sais pas moi, General Electric, ou ceux qui faisaient des TV. Là, Walmart, eux autres, c'est juste, venez chez nous, vous allez tout avoir, mais on est tellement gros qu'on négocie les meilleurs prix, c'est pas cher, venez-vous-en.
Fait que ça avait commencé en relation. T'sais, on paye pour la relation. Ouais. C'est un peu comme un courtier. Je te donne un exemple, un courtier sur Internet aujourd'hui que j'ai vu cette semaine. Disons que le courtier s'est vanté de s'être acheté une grosse, grosse, grosse maison quelque part. C'est correct, c'est son succès, tout ça.
Ben oui.
Mais quand tu y penses, t'sais, quand il fait, par exemple, 5 % sur une maison de 400 000, c'est 20 000 $ de revenus, t'es l'intermédiaire qui met en association un vendeur et un acheteur. et tu prends la valeur, dans le fond, de la transaction, dont le risque était pris par quelqu'un d'autre.
Exact.
Donc, le travail derrière tout ça, c'est de se poser la question, dans votre vie, comment êtes-vous capable de profiter de quelqu'un d'autre sans en abuser?
Et ouais, c'est un peu triste la façon dont tu le présentes, mais si on prend tous les exemples de Walmart et de la techno que tu as donné, c'est un peu ça.
C'est un échange. Il faut que ce soit un échange. Pour que quand tu fais du profit de quelqu'un d'autre ou d'une organisation ou d'une personne, faut que cette personne-là en profite aussi.
Aussi.
Et ça, c'est difficile parce que, exemple, si j'écris un poème, Sylvain, mettons je vais devenir poète.
Mais pourquoi pas?
Et que là, je partage mes poèmes sur Facebook et que les gens ne me payent pas, mais que tout le monde les voit sur Facebook. Ben, je profite de Facebook pour me faire connaître.
Ouais.
Les gens aiment mes poèmes. Par contre, il y a juste Facebook qui fait de l'argent en ayant des utilisateurs qui veulent voir mes poèmes. Moi, je fais pas une scène si je les vends pas. Et donc, il y a ça. Mais je profite de Facebook quand même. Et c'est pour ça que le gouvernement est poigné.
Les utilisateurs et
vendeurs à Facebook, c'est malgré qu'ils le critiquent, ils veulent taxer.
Mais moi, je trouve ça quand même un peu spécial. Je condamne pas ça. Là. Tout ce que tu dis là, je suis d'accord avec ça. Mais il reste que pour l'artisan, pour celui qui fait de quoi de ses 10 doigts, pour celui qui produit une chanson ou un poème ou une chemise, il reste que c'est pas lui. Il y a eu l'invention, il l'a fait, il l'a fabriqué. C'est Walmart ou Amazon ou Google ou Apple Music qui va faire le fric. C'est celui qui détient l'espèce de lien entre le consommateur et le produit. Tu sais dans quel marché on a vu ça en premier, Pierre-Yves? Le phenomène que tu as décrit, là, première fois que ça s'est fait, c'est dans le marché de la cocaïne.
Pas au courant, tu comprends? Je suis pas un gros consommateur.
Moi non plus, franchement. Mais je lis, là, j'adore l'histoire de Narcos, ça, moi, j'adore ça. Donc, quand les Mexicains, ça a commencé en passant avec le premier cartel de Sinaloa, donc avant El Chapo, celui de Miguel Angel. Quand il est allé voir les Colombiens, il y avait encore le cartel de Cali à l'époque, puis un petit peu Escobar, les Mexicains ont dit aux Colombiens qui fabriquaient et qui produisaient la cocaïne, désormais, c'est nous qui allons contrôler le marché. Les Colombiens étaient morts de rire. Ben, non, c'est nous autres qui avons la coke. La coke est au Pérou, pour Colombie, puis c'est les frères Ochoa, puis Escobar, puis la gang des Rodriguez. Sauf que le Mexique a dit, ouais, mais t'es pas capable de vendre ta coke sans nous autres parce que la frontière entre les plus gros acheteurs de coke au monde, les Américains, les gringos, puis la frontière est avec nous autres. Donc, à partir de maintenant, on règne la business. On t'achète la coke à moitié prix, au prix qu'on veut, puis c'est nous qui encaissons les profits. Donc, avant Walmart, puis avant Elon Musk, les cartels mexicains ont compris ça et ils ont pris le contrôle du marché et ils font, aujourd'hui, là, sont 100 fois plus gros que les Colombiens.
Hey Sylvain, ça serait le fun d'avoir une chronique histoire économique. Le parallèle entre le marché secondaire ou le marché illégal et la réalité et faire des parallèles comme ça.
Bon, mais
ça serait le spécialiste du côté illégal. Moi, je me tiendrais du côté légal.
Non, mais souvent, le marché noir reflète la réalité d'en haut et en avance.
Mais ils ont une marge. Hein? Tu sais, quand tu regardes les états financiers de compagnie, ton revenu, dépenses, amortissement, puis demander une ligne impôt. Elles autres, ils n'ont jamais ça. Les compagnies on the side, ils n'ont pas la ligne impôt.
Non, c'est du capitalisme brut sans aucune morale. Eux autres, c'est uniquement ça. Quand les Mexicains vont voir les Colombiens, là, ils vont profiter d'eux autres, mais ils s'en sacquent un peu. Ils font juste leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est de même que ça marche.
Oui, puis ça marche demain. Le prix n'est pas négocié, disons, de la même façon. Et l'exploitation de la main-d'œuvre est faite différemment aussi. Mais il y a des parallèles à faire.
Ce que les Mexicains ont dit aux Colombiens, c'est la même chose que le Walmart dit aux petits fabricants. Si tu veux vendre, t'as pas le choix. C'est moi qui ai le commerce, c'est moi qui ai le public. Comme les Mexicains détiennent les frontières, puis l'accès aux gringos.
On peut faire un parallèle boiteux, parce que je voudrais pas dire que c'est pareil, puis je veux pas
s'en poursuivre. Non, c'est pas ça qu'on dit, là.
Tu sais, dans le fond, les gros joueurs, Walmart, Costco et autres, ont quand même le pouvoir de définir même comment les fournisseurs vont les fournir ou vont leur charger. Je te donne un exemple. Oui. Si tu veux vendre de quoi chez Costco, exemple de l'anti-sudorifique, ça n'a l'air de rien comme ça, ou simplement, disons, du Listerine. Ben, il va falloir que tu leur proposes un emballage ou un format unique à Costco, ce qui va faire en sorte que le client ne pourra pas être à même de bien voir la valeur ou la comparaison. Il va trouver quelque chose d'unique chez Costco qui va l'attirer. Exemple, Tu voulais avoir un paquet de réactines, pas de trouble, je t'en vends trois dans un. T'sais, dans le fond, l'important, ça fait partie aussi du marketing.
Je comprends.
Le packaging de tout ça.
Alors, merci Pierre-Yves. Merci.
Ça fait plaisir.
On se reparle demain.
Je me suis fait le côté légal de la chronique.
Salut. À demain. 16h56. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, vous savez que je ne suis pas un client, un consommateur, mais j'aime ça. La dernière série, Narcos, le Mexique. et très, très instructive, ça se dit, ça?
Oui, absolument.
Là-dessus, parce qu'il y a eu Narcos Colombie, les trois premières saisons, je pense, c'était en Colombie, ou les deux premières. Ensuite, on est au Mexique, avec la création des cartels, avec Sinaloa, puis etc. Bon, alors, si vous voulez en apprendre un peu plus là-dessus, c'est là où on assiste vraiment à la scène où les Mexicains s'en vont voir les Colombiens pour parler un peu de ce dont je vous l'ai dit. T'as-tu vu ça, Narcos, sur Netflix?
Non.
Pas vu ça?
Non.
T'es bon?
Ouais.
Moi, je pense que c'est des meilleurs.
Un peu. J'ai écouté les premières séries, mais les premières saisons, mais je suis en retard de deux saisons, je pense. Mais je vais m'y remettre à un moment donné.
Mais on n'est pas encore rendu à El Chapo. Il y a aussi la série El Chapo sur Netflix, qui n'a rien à voir avec Narcos. Là. Parce que dans Narcos, la dernière saison termine que El Chapo est encore tout petit. Là. Il commence à grossir au Sinaloa, mais c'est pas encore lui le king. Mais il y a vraiment une série sur Netflix, haute production, complet sur l'histoire de El Chapo. C'est très, très bon aussi.